Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Utopie sociale à la une de la revue de presse.
Et des entreprises où il n'y a plus de hiérarchie, plus de chef. Et la communauté des salariés s'auto-organise, on appelle ça holacratie. Ça nous vient des États-Unis et c'est le Figaro qui nous le dit dans ses pages d'entreprise. L'holacratie a le vent en poupe en France et c'est déjà une information en soi que cette utopie est droit de citer dans un journal qui en tient plus spontanément pour l'ordre notamment économique. Mais voilà, le Figaro est allé visiter le monsieur bricolage, Mister Bricolage de Clarac dans l'Auche, au nord d'Auch dans le Gers, une entreprise à la dérive, qui a basculé il y a 6 mois dans l'autogestion, et les déficits se comblent, l'attente aux caisses a disparu, et les 30 salariés découvrent l'énergie d'être ensemble. Ils s'appellent désormais dans leur palabre des briques hocheurs, car l'holacratie a son vocabulaire, son organisation, elle est guidée par un logiciel informatique, Glassfrog, littéralement la grenouille de verre, et le Figaro se demande si ce n'est pas un langage digne d'un groupuscule sectaire. Mais pourtant, allant lire de vieux articles de presse sur le web, j'ai découvert que l'holacratie a été inventée par l'écrivain et penseur antitotalitaire Arthur Koestler, qui dénonçait le goulag et théorisait l'holarchie, le fait que nous faisons partie d'un tout. On lit aussi, et là c'était sur Atlantico dès 2016, que l'entreprise vedette de l'holacratie aux États-Unis, eh bien, ne s'en est pas bien portée. Les salariés ont fui la palabre obligatoire. Les plus anciens, Thomas et moi par exemple, se souviendront que dans les années 70, on disait en France, l'autogestion, c'est pas de la tarte.
Mais l'utopie fait des petits dans les journaux.
Et le pouvoir, ça se partage, proclame à la sa une, l'usine nouvelle. Très beau dossier du journal de l'entreprise, du journal de l'industrie pour rendre l'entreprise à la société. Et ça parle notamment de ces salariés qui rentrent dans les conseils d'administration, ostracisés, parfois respectés à l'arrivée. On a besoin d'utopie ce matin quand on lit dans l'Humanité un joli article plein de colère sur ce qu'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes que l'ordre républicain a reconquis. C'était aussi, dit le journal communiste, une manière de vivre ensemble, solidairement. D'ailleurs, la ZAD a été matée parce qu'on ne voulait pas d'une zone d'expérimentation. C'est ce que dit dans Nice Matin, un géographe de l'université de Bruxelles. On a besoin d'utopie quand on lit dans Sud-Ouest la longue et humaine confession d'un salarié qui lui a vécu dans une entreprise normale, où l'on vous impose d'en haut votre destin, l'usine Ford de Blanquefort vouée à disparaître, où Albert Caille était rentré à sa création en 1972 et son fils Jean-Michel, cadre, a gardé son badge. Il raconte la vie de sa famille autour de Ford, où il s'est fait une vie. Il a vécu l'abandon et les trahisons, lui qui croyait que ses patrons étaient des gens estimables.
Et puis une utopie financière dans le magazine des Échos.
Celle des bitcoins ou de l'Ether, ces monnaies cryptées adossées à des chaînes informatiques. Mais les Échos magazine nous rappellent que l'utopie est aussi au service de l'implacable sociologie. Et ils nous ramènent les frères Winklevoss, vous savez, ces jumeaux grands et forts et arrogants, sélectionnés olympiques en aviron et rejetons harvardiens d'une grande famille de la côte est des États-Unis. On les connaissait pour avoir été les perdants des débuts de Facebook, ceux à qui Zuckerberg avait volé l'idée du trombinoscope électronique connecté. Mais les Winklevoss avaient quand même grappillé quelques millions de dollars dans un conflit juridique et ils les ont réinvestis dans les monnaies cryptées. Ils sont milliardaires désormais, là où ils devaient aboutir. Dans vraiment l'autre face du Bitcoin de l'Ether, avec des aventuriers suisses et tatoués, des geeks qui ont installé leurs ordinateurs dans la fraîcheur indispensable du Haut-Valais en Suisse. Chouette reportage de ce jeune hebdomadaire à Gondo, 80 habitants, qui revit l'or, donc la quête de l'ancien monde, parce qu'on cherchait de l'or jadis dans les rivières suisses. Eh bien, on a toujours besoin de métaux dans le nouveau monde. On a besoin de scandium, de cerium, de néodyme. Nos téléphones portables, nos télévisions, toutes sortes de lasers et même la pierre des briquets ont besoin des métaux rares, nous dit Uzbek Erika. On les trouve de manière pratiquement inépuisable dans des fonds marins autour du Japon. Bonne nouvelle, mais catastrophe écologique en cours.
Des histoires de mots pour finir. Et MOTS.
Et elle est-elle une chercheuse d'or, Laetitia, veuve de Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday, dont Le Point a publié une confession. Il y a dans les Échos magazine encore un article qui décrypte les enjeux juridiques de l'héritage de Johnny. Et l'on comprend que la clé est la géographie. Il faut pour David et Laura démontrer que leur père était de France, mais pour Laetitia, que Johnny fut américain. Et ayant lu cela, on lit d'un autre œil la confession dans le point de Laetitia, truffée de géolocalisation américaine. Ainsi une colère de Johnny qu'elle raconte. « Tu vas me sortir de là, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi, je veux retourner à Los Angeles », aurait dit le chanteur. Et on se met à douter de l'émotion. Les mots sont précieux et à mal les utiliser, on choque. Ainsi, pages 44 et 45 de Marianne, on trouve un gros titre « Les musulmans sont-ils des élèves comme les autres ?» Et dans ce journal, qui par ailleurs raconte si bien l'insurrection étudiante ou l'emprise d'Apple sur les médias, ce titre « Les musulmans sont-ils des élèves comme les autres ?» censé illustrer une étude sociologique dont nous avons parlé ici à propos de la radicalisation, est étrange. « Ce n'est pas une provocation, nous dit Marianne, alors c'est à minima une erreur. »